312, au milieu de l'Égypte, à Tell el-Amarna, en hiver donc, puisque les fouilles ont lieu en hiver, dans toute l'Égypte se trouvent des équipes d'archéologues internationaux, des Américains, des Italiens, des Allemands, des Français, qui sont en train d'excaver ce que le sol de l'Égypte renferme encore. Et une équipe d'archéologues dirigée par un Allemand, un Berlinois, Ludwig Borchardt. Et je dis une équipe parce qu'évidemment, il n'est pas seul. Ceux qui creusent vraiment, ce sont des Égyptiens, des personnes recrutées localement, des enfants d'ailleurs parmi eux. Ils vont trouver l'atelier d'un sculpteur. C'est un événement considérable puisque dans un atelier de sculpteur, on trouve des œuvres d'art, beaucoup d'un coup, à différents stades de leur réalisation, des esquisses, des œuvres finies. Parmi ces pièces, les archéologues berlinois vont trouver le célèbre buste de Néfertiti qui va révolutionner l'idée qu'on se fait de l'art égyptien. Les archéologues ne savent pas encore que c'est Néfertiti, mais sa beauté, ses couleurs, son rayonnement, sa tenue font qu'ils comprennent tout de suite qu'ils sont face à une œuvre majeure de l'histoire de l'art. On a le journal des fouilles avec cette phrase souvent citée de l'archéologue Ludwig Borchardt qui dit au moment où il la voit « Elle est trop belle pour être décrite, il faut la voir ».
Autour de cette reine presque inconnue, les mystères s'accumulent encore. Elle est née il y a environ 3440 ans. On lui donne le nom de Néfertiti, qui signifie « la belle est venue ». Elle n'a que 15 ans quand elle épouse le futur pharaon Akhenaton. D'une beauté sublime, ils seront le double visage d'une véritable révolution dans l'histoire de l'Égypte ancienne.
Face contre terre devant le dieu vivant.
Akhenaton renonce au dieu de ses ancêtres pour le culte d'un dieu unique, Aton, le dieu soleil, dont Néfertiti devient la grande prêtresse. Ils abandonnent Thèbes pour déplacer la capitale du nouvel empire à Amarna, au milieu du désert. Et Amarna devient le cœur de tous les bouleversements religieux, politiques, artistiques. Fait rare dans l'Égypte antique, on représente souvent Néfertiti en situation de pouvoir aux côtés d'Akhenaton ou lors de scènes intimes avec leurs sept enfants, dont le jeune Toutankhamon. Une politique des images qui rend encore plus troublante sa disparition brutale de la communication officielle. Écartée par Akhenaton, elle serait morte en disgrâce vers 35 ans. Reine tragique et mythique.
Et ce qui a fait de cette découverte un événement mondial, c'est que cette période d'Amarna avait subi ce qu'on appelle la damnatio memoriae, c'est-à-dire l'effacement des traces par les successeurs d'Akhenaton. Après la mort d'Akhenaton, les pharaons qui arrivent à sa suite décident de rétablir l'ordre ancien, de rétablir le polythéisme et d'effacer toutes les traces de cette courte période de l'histoire. Et cet effacement total des traces est responsable du fait qu'on ne savait rien d'Amarna jusqu'aux années 1900 et que c'est très tard donc qu'on découvre que cette période de l'histoire a existé. Et quand en plus de cela, on en découvre les traces matérielles, donc des objets qui n'ont pas été détruits, qui n'ont pas été effacés, ils sont encore plus des vestiges précieux du passé. Or, à ce moment-là, en 1912, il y a une réglementation assez stricte qui oblige à effectuer ce qu'on appelle un partage des fouilles. C'est-à-dire que quand on trouve 20 pièces, il faudra que 10 pièces restent en Égypte, enfin, restent entre les mains du service des antiquités d'Égypte, qui est un service français. Et puis les 10 autres pourront partir à Boston, à New York, à Berlin, à Paris, chez les archéologues qui les ont trouvés. Et au terme de ce partage, Ludwig Borchardt, l'archéologue berlinois, obtient d'emporter, entre autres pièces, le buste de Néfertiti à Berlin. Le résultat de cette fouille va être exposé au musée égyptien en 1913, sauf Néfertiti. Pourquoi ? Parce que les Allemands craignaient peut-être que ceux qui avaient autorisé son exportation regrettent de l'avoir autorisé, par prudence donc. Et quand les œuvres trouvées à Tell el-Amarna arrivent à Berlin, elles arrivent dans une métropole européenne surexcitée, une métropole où sont réunies les avant-gardes de la peinture, de la danse, de la musique, les premiers cinémas commencent à attirer du monde, les drogues se déploient, le tango est extrêmement à la mode, les transsexuels, les travestis attirent un public non seulement berlinois mais aussi de touristes. Et au moment où ces pièces vont être montrées à Berlin, précisément à ce moment-là, se tient l'une des grandes expositions des avant-gardes du XXe siècle, l'exposition qui réunit les expressionnistes, les futuristes, les cubistes. Et cette exposition d'art contemporain, qui va révolutionner ou qui va faire date dans l'histoire de l'art contemporain au XXe siècle, se tient à quelques centaines de mètres de l'exposition Tell el-Amarna au musée égyptien. On a un clash des moments historiques, ceux qui regardent vers l'avant, les futuristes, et de l'autre côté, ceux qui sont attirés par l'Antiquité, mais une Antiquité différente.
Les Européens n'ont pas attendu les fabuleuses découvertes d'Amarna pour se passionner pour l'Égypte antique. Momies, pyramides et temples en ruines les fascinent dès le Moyen-Âge. Napoléon Bonaparte met le feu aux poudres en lançant sa campagne d'Égypte en 1798. On dévore les récits de voyage au fil du Nil. Paris est conquis par des monuments de style égyptien. La déesse Isis devient la patronne de la capitale et Cléopâtre, la muse des poètes. Artistes et écrivains succombent à ce puissant goût de l'Égypte. Victor Hugo, comme Théophile Gautier, dont le roman de la momie est un franc succès. Entre 1822, où Champollion redécouvre les hiéroglyphes, et 1922, où Lord Carnarvon retrouve la tombe de Toutankhamon, tout un siècle est traversé par cet emballement occidental, l'égyptomanie. Avec en 1869 l'ouverture hautement symbolique du canal de Suez qui trace un lien de la mer Rouge à la Méditerranée.
Le buste de Néfertiti, dans toute sa splendeur, dans tout son caractère exceptionnel, va être montré seulement en 1924 à Berlin dans un cadre tout blanc. Elle est posée sur un socle, dans une petite vitrine uniquement pour elle, éclairée par le haut, par une lumière naturelle, et face à elle se trouve son mari, lui-même sur un socle, dans une vitrine, Akhenaton, et ils se regardent. La presse de l'époque incite les prolétaires à aller voir cette exposition en expliquant que, allez-y, prolétaires, c'est une exposition pour laquelle on n'a pas besoin d'avoir de connaissances historiques, c'est une expo pour tout le monde, et vous allez voir, les gens d'Amarna nous ressemblent. C'est-à-dire que se produit un raccourci historique phénoménal entre l'homme ou la femme, la civilisation des années 1900, et l'homme ou la femme des années 1400 avant Jésus-Christ, qui tout d'un coup ont l'impression, ceux de 1900, qu'ils sont les mêmes, qu'ils ont retrouvé, qu'ils se sont trouvés eux-mêmes dans le sable. Ce qui va transformer le buste des Néfertiti en égérie de Berlin, en Joconde de Berlin, c'est son extrême beauté, d'une part, et le fait que cette beauté, comme par un miracle historique, correspond au canon de la beauté des années 20, Greta Garbo et d'autres femmes hiératiques, un peu dures et en même temps distantes, mais extrêmement belles. Elle est trouvée et montrée à une époque où c'est ce genre de femme-là que le cinéma, que la mode, que la littérature aime. Ce buste de Néfertiti, qui est en fait un objet, devient un sujet. Néfertiti se transforme progressivement dans le regard des gens, du public, dans la publicité, dans les magazines, en une personne réelle.
À l'avant-garde du progrès, la télévision vous propose ce soir un bond en arrière. Et pas un petit bond, croyez-moi, un grand bond. Un bond de 35 siècles vers le profil de Néfertiti dans la vallée des rois égyptienne. Par ici?
Non, non, non. Voilà, par là, mais si.
Pardon, que l'on vous voit cette fois-ci en entier, merci. Madame Avron de Paris, notre Nefertiti 1959. Regardez-moi, non, d'abord parce que c'est très agréable pour moi, ensuite parce qu'on vous voit de profil et Nefertiti se présentait de profil. Maintenant, vous pouvez regarder nos téléspectateurs de face. Voici la fameuse coiffure qui a demandé un petit peu de temps. Vous êtes heureuse, madame ou mademoiselle?
Madame.
Madame, vous êtes heureuse, madame? Oui.
Le buste de Nefertiti n'est pas seulement l'incarnation de la beauté, l'incarnation de l'histoire complexe du XXe siècle, elle est aussi l'incarnation de cette très difficile question de la restitution des œuvres d'art. Ou pour le formuler autrement, elle pose peut-être plus qu'aucune autre œuvre dans un musée cette question: à qui appartient la beauté? Est-ce que la beauté appartient à ceux qui, pour des raisons historiques, parce que l'Égypte a été longtemps sous pouvoir colonial britannique et français, est-ce qu'elle appartient à ceux qui ont pu se l'approprier dans ce contexte, en l'occurrence les Allemands, les Berlinois, ou est-ce qu'elle appartient à ceux qui vivent aujourd'hui sur la terre d'où elle a été sortie il y a plus de 100 ans? Elle est devenue une berlinoise par sa présence à Berlin, en quelque sorte, et par les effets d'appropriation populaire qui ont eu lieu autour d'elle. Mais malgré son absence en Égypte, elle est aussi une icône pour les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui. Et quand on se promène au Caire, on voit beaucoup dans les magasins de souvenirs des bustes de Nefertiti, alors qu'elle n'est pas là. Ce jeu de la présence et de l'absence.
Quand Nefertiti quitte l'Égypte coloniale de 1913, c'est avec la bénédiction officielle du service français des antiquités. Mais après le carnage de la Première Guerre mondiale, les Français exigent sa restitution. Le refus légitime des Allemands lance d'interminables négociations. Il faut attendre l'autonomie de l'Égypte pour qu'un accord s'ébauche enfin entre Berlin et le Caire. L'échange de Nefertiti contre d'autres pièces. Un rêve égyptien anéanti par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Après la Seconde Guerre mondiale, Nefertiti reste à Berlin-Ouest, tandis qu'Akhenaton attend à Berlin-Est une réunification de l'Allemagne qui les réunira aussi. L'Égypte des années 2000 revient avec insistance sur sa demande de restitution de la reine colorée, sans aucun résultat. Nefertiti reste un sujet de tension diplomatique.